Hier, juste avant le match entre les Rays de Tampa Bay et les Astros de Houston, l'annonceur maison dire les noms ont été changés pour conserver l'anonymat et l'innocence des personnes. Pour interpréter l'hymne national, Jean-Sébastien Laliberté. Et pour interpréter en ASL l'hymne national, Christiane Campagna. Et j'ai pas pu faire autrement que faire « Wow, bravo Tampa Bay ».
Accès libre avec Luc Fortin.
C'est démarré pour Accès libre, Jean-Sébastien qui chante l'hymne national dans mes oreilles. Et que je salue.
Bonjour, et je ne chanterai pas pour le reste des auditeurs.
Non, est-ce que tu rigoles un peu, hein? Parce que malheureusement, ma bouteille thermos étanche n'est vraiment pas étanche, semble-t-il. Mes notes sont toutes rentes. Alors aujourd'hui, on va probablement travailler sans notes. Parce que je peux pas les regarder, je peux pas les toucher, les points sont dépointillés, finalement. Alors que voulez-vous, et là, ils sont tous amusés ici parce qu'ils disent que je me suis moi-même fait un poisson d'avril. Enfin, bref.
Mais je te trouve chien avec toi-même, Luc.
Bon, moi aussi. Si j'avais voulu me donner un défi, j'aurais dû prendre autre chose. Aujourd'hui, entre autres, il sera question de sclérose en plaques, puisque à Granby, il y a un organisme qui, entre autres... fait quelques événements de levée de fonds, dont quelque chose d'assez original, une boutique de livres usagés, de CD usagés, et on va justement causer avec les gens de Saphir. Il sera question également de sport et d'équipement adapté. Comment l'équipement et la haute technologie des Jeux paralympiques aident au quotidien? Et si personne s'inquiète du circadien et du sommeil des aveugles, moi, je le fais. Parce qu'au début du mois, vous avez peut-être, sûrement, parce qu'à peu près tout le monde en parlait, on avance l'heure. Bon, là, on a appris qu'en Europe, ils sont en grande discussion. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on va avancer l'heure? Là, semble-t-il que ce sera en 2021. Est-ce qu'on retourne à l'heure normale ou est-ce qu'on va à l'heure avancée pour l'Union européenne? Et là, il y a plein de gens qui disaient, bon, c'est dangereux. Mais personne ne se préoccupait des aveugles. Des personnes qui ne voient pas la lumière. On a appris que, bon, c'est la lumière qui stimule un paquet d'hormones et tout, mais personne ne se demandait, ouais, mais Luc, qu'est-ce que tu fais, toi, pour mieux dormir, toi qui as de la difficulté à dormir? Alors, je me suis dit, bon, ben, tiens, on va essayer de causer avec Diane Boivin, qui est spécialiste là-dedans. Bon, malheureusement, ça paraît-tu qu'on fait du temps? on attend son appel. Par contre, j'entends la sonnerie, alors c'est probablement elle qui utilise le téléphone rouge. Et aujourd'hui, j'ai proposé de la musique tranquille. Et bonne nouvelle, ça fait quelques semaines, si vous êtes des habitués, vous savez que j'ai envie d'entendre du B3. Jean-Sébastien m'a dit qu'il en a trouvé. Donc, je ne sais pas quel sera l'artiste en question, mais tant mieux. Madame Boivin, bonjour.
Bonjour.
Content de vous avoir. Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Oui, merci. Je disais aux auditeurs, en vous attendant, qu'au début du mois, avec le changement d'heure, il y a eu plusieurs textes, plusieurs petits topos qui expliquaient bon, l'importance de la luminosité sur le rythme circadien et comment ça influence finalement. Puis là, bon, c'est moins bon pour la santé et tout. Mais personne ne se préoccupait des gens qui, comme moi, sont aveugles. Et sans le prendre personnel, je me suis dit que c'était quand même un sujet qu'il fallait aborder.
Absolument.
Qu'est-ce qui arrive pour les gens comme moi?
Mais en fait, on va faire une petite parenthèse avant de parler des patients malvoyants et aveugles pour que les gens comprennent bien l'impact. Là, c'est qu'on a une horloge biologique.
Mm-hmm.
Hein, c'est un système complexe même d'horloges qui ont leur journée biologique interne, qui sont légèrement différentes de 24 heures. Donc, à chaque jour, on doit mettre nos horloges biologiques à l'heure de l'environnement, c'est-à-dire de la planète Terre.
Oui.
Et c'est un phénomène qui se produit, pour la plupart d'entre nous, naturellement, mais qui fait beaucoup appel à l'exposition à la lumière. Donc, notre corps extrait des synchronisateurs de l'environnement qui lui disent « on est dans tel fuseau horaire, on est sur telle planète bon. ». Et donc, cette entraînement par la lumière se fait par l'exposition de la rétine à la lumière, puis ensuite des voies particulières. Donc, c'est très, très, très important. Et si ça ne se produit pas, l'horloge biologique va suivre ses journées internes. Elle va décaler un petit peu à chaque jour de l'environnement extérieur.
C'est ça, parce que la journée interne est plus longue que le 24 heures que l'on connaît.
Ça dépend.
Ah oui, OK.
Ça dépend. Pour la majorité d'entre nous, oui, mais un peu plus longue. Avant, il y a très longtemps, les gens pensaient que c'était à peu près 25 heures, mais c'est beaucoup plus près de 24 heures que ça. Okay. C'est en moyenne peut-être une douzaine de minutes par jour.
Okay.
Mais il y a des gens qui ont une horloge biologique qui est a des journées plus courtes que 24 heures. Et il y a plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs. Mais quand même, c'est une petite quantité. On dit, bon, ça doit pas être important, mais non, c'est parce que ça s'accumule. Donc, si votre horloge retarde un peu à chaque jour, ben au bout de 60 jours, elle aura, ou même de 30 jours, elle aura atteint une position qui est dans plusieurs fuseaux horaires par rapport à votre position de départ. Bon, généralement, les gens ne sont pas conscients de ce phénomène parce que ça se produit naturellement, mais il y a des gens qui souffrent d'un trouble des rythmes circadiens très sévère. C'est le plus sévère qu'on a, c'est un trouble de cycle éveil-sommeil différent de 24 heures, généralement plus grand que 24 heures. Donc, ce que ça produit, c'est des cycles d'insomnie plus ou moins sévères et parfois très prononcés. Imaginez que vous allez en Asie, que vous revenez, on parle d'un décalage horaire de cet ordre-là, et des troubles à maintenir un bon niveau d'éveil la journée. Et puis, ces troubles progressivement rentre dans l'ordre. Donc, il y a des cycles.
Mais en même temps, comme la luminosité varie selon la période de l'année, on perd ou on gagne une minute et demie par jour de luminosité, j'imagine que ça devrait nous affecter ça aussi?
Quand on parle de la luminosité, on peut considérer différents effets qu'elle a, entre autres celui d'ajuster l'horloge biologique, et c'est de cet effet qu'on est en train de discuter, mais il y a aussi un autre effet qui est la lumière elle-même, son rôle direct sur l'humeur, sur le niveau de fatigue ou de vigilance. Quand on est dans la société moderne, on est exposé à des sources artificielles
c'est
de lumière qui font que on change les heures d'exposition à la lumière et à l'obscurité et que le cumul de ces expositions, lumière naturelle, lumière artificielle, fait en sorte que c'est suffisant pour rester ajusté à un horaire de 24 heures. Sauf si notre corps ne perçoit pas la lumière comme un agent synchronisateur des rythmes circadiens. Ce qui arrive fréquemment chez des patients aveugles.
Mais, docteur Boivin, j'ai déjà entendu des gens dire qu'il était possible de percevoir la lumière à travers les pores de la peau. Est-ce que ça se vérifie, cette théorie-là?
Ça a été testé chez des hamsters.
OK.
Je ne sais pas si l'humain, ça a été testé, mais la réponse est oui. Il peut y avoir une certaine quantité de lumière qui traverse la paupière. L'hamster ayant, je crois, une paupière un petit peu plus poilue. Mais disons que c'est mieux d'avoir les yeux ouverts quand on veut avoir une exposition à la lumière.
D'accord.
Mais ce qu'il faut dire et qui est d'intérêt pour vous et vos collègues aussi qui sont malvoyants, c'est qu'on peut être neurologiquement aveugle, mais circadiennement voyant.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Wow!
Ouais,
ben
c'est
oui,
ça.
C'est ça.
Ouais.
Bon, votre œil peut ne pas percevoir suffisamment de lumière pour pouvoir visionner ce qui l'entoure, mais il peut être exposé à suffisamment de lumière pour que ça produise un effet sur l'horloge biologique. Parce qu'en fait, dans la rétine, il y a différents photorécepteurs. C'est les organes qui vont capter la lumière et traduire le signal lumineux en autre chose. Mais pour le système circadien, il y a des photorécepteurs particuliers. Puis, la lumière cumulée sur les deux rétines est concentrée et au fil du temps exerce un effet très puissant. Et c'est des recherches absolument remarquables qui ont été produites au niveau des années 2000, publiées, qui ont montré, par exemple, que si vous prenez un patient aveugle et que vous l'exposez à de la lumière vive la nuit, c'est le moment où on sécrète une hormone appelée la mélatonine. Ça peut inhiber la sécrétion de la mélatonine chez certains aveugles, pas chez tous. Donc, vous venez d'avoir identifié des patients aveugles qui répondent à la lumière comme un agent synchronisateur des rythmes circadiens, même si ils ne voient pas.
J'allais justement poser la question, comment faire pour savoir dans quel camp je me situe? Est-ce que c'est justement de faire le test et de me doter d'un type de lumière puis de la laisser allumer toute la nuit? Parce que je veux savoir, moi, si je suis aveugle neurologique ou juste... c'est quoi l'autre catégorie?
Circadiennement
aveugle. C'est ça. Ouais.
Ben là, c'est qu'il faudrait qu'on fasse des tests puis qu'on mesure la mélatonine et tout ça. Mais oui, ça se fait.
C'est trop compliqué.
Laboratoire de recherche.
Ouais. Mais ce serait quoi le truc plus simple?
Ben le truc plus simple, c'est de regarder... quel type d'insomnie vous faites? Est-ce que c'est une insomnie? Est-ce que vous faites de l'insomnie? Est-ce que, comme patient, vous avez de la difficulté à vous endormir, à rester endormi, à rester éveillé? Puis, est-ce que ça change avec les journées? Donc, vous pourriez remplir un agenda et en discuter avec le professionnel de la santé. Il y a des interventions qui peuvent être faites, mais il y a aussi des patients qui ne répondent pas à la lumière, mais dont la journée biologique interne est très près de 24 heures, au point que d'autres synchronisateurs que la lumière, qu'on dit moins puissants, on les appelle non photiques, puissent être suffisants pour ajuster tant bien que mal les rythmes. Par exemple, les interactions sociales, l'horaire des repas, activité-repos. On connaît très, très peu l'étendue de l'effet de ces autres synchronisateurs, mais en clinique, quand on voit des gens qui souffrent d'horaires de sommeil et d'éveil, moi, je revise avec eux les habitudes de vie en général. Donc, c'est une approche qu'on dit par thérapie des rythmes sociaux. Là. On essaye de recommander les heures idéales pour qu'un individu fasse ses activités. Et souvent, même si ce n'est pas ces choses en particulier, comme par exemple les horaires d'interaction sociale ou de sortie qui ajustent l'horloge biologique, ça va forcer l'individu, du moins l'individu voyant, à s'exposer de façon régulière à la lumière et à l'obscurité.
Donc, dans le cas d'une personne aveugle, vraiment réguler sa journée et essayer de maintenir une habitude, ce qui n'est vraiment pas facile parce que nos vies sont ce qu'elles sont, mais ce serait quand même indiqué. La mélatonine, c'est utile, pas utile pour avant de se coucher?
La mélatonine, c'est une médication qu'on utilise, qu'on a dans notre arsenal de traitement des rythmes circadiens et c'est indiqué effectivement à utiliser dans les cas de troubles des rythmes circadiens. Par contre, la façon de l'utiliser n'est pas celle recommandée sur les bouteilles en vente libre. Si on veut utiliser pour des traitements de troubles des rythmes circadiens, généralement, on vise des doses beaucoup plus faibles.
Okay.
On peut parler de 0,5 et même 0,3 milligrammes administrés plusieurs heures avant l'heure désirée de coucher. Mais encore faut-il savoir à peu près où est l'horloge biologique.
Ouais.
Bon. Mais il y a des interventions qu'on peut faire pour essayer de régulariser tout ça. Puis il y a des pays où il y a des agonistes des récepteurs à la mélatonine qui ont fait l'objet d'études pharmacologiques plus systématiques. Ce serait bien éventuellement de pouvoir utiliser ces substances ici.
Oui, et aux auditeurs, sachez, je vais demander à Christiane, qui était dimestre, de trouver quand même peut-être quelques articles qu'on peut mettre en lien avec l'émission, bien que ceux-ci risquent d'être en anglais, là, mais de trouver des articles spécialisés. Diane Boivin, bon, vous le savez pas, mais mes notes qui sont en braille ont pris l'eau, alors j'ai pas de notes. En terminant, dites-moi votre titre exactement, dites-moi où vous travaillez, rendez-vous crédible à l'auditoire.
OK. Donc, je suis professeur et médecin, chercheur au département de psychiatrie de l'Université McGill et je dirige le Centre d'études et de traitement des rythmes circadiens de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Avec un long titre comme ça, j'imagine que...
Voilà pourquoi on l'a appelé.
Exact.
Beau dodo, Diane Boivin.
Merci beaucoup.
Merci.
Puis, au plaisir de rediscuter de la chose.
Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la, 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 di-di-da. La, la, di-di-da, di-da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy. And probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better.
J'ai envie de lancer un petit projet avec Jean-Sébastien. Je ne sais pas s'il va embarquer. J'en ai discuté. J'aimerais ça qu'une fois par semaine, on mette ce que nous considérons comme une des 100 tunes occidentales du 20e siècle. Le Piano Man en est sûrement une de mon côté. Dominique Tremblay, salutations.
Bonjour, monsieur. Ça va bien?
Ben oui, merci. Et toi?
Très bien, merci.
Bon, comme tu sais, mes notes ont pris l'eau. Alors, je ne sais pas exactement de quoi on va parler, mais je me souviens que tu voulais me parler de golf.
De golf? Non, mais je pense que tes notes ont été allées se promener dans l'eau avec la balle de golf.
Oui, non, c'est ça. On voulait revenir un peu sur, bon, on le sait, en voiture, les technologies des voitures de course ont aidé beaucoup la voiture au quotidien, la voiture, disons, civile. Et je me demandais si, au chapitre des technologies de sport adapté, la fine pointe, on pouvait profiter justement de ces développements pour monsieur, madame, tout le monde, ou au contraire, malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de marché, on ne met pas tellement d'efforts et d'argent sur la recherche pour essayer de se dépasser d'un pays à l'autre?
Bien, je pense que la réponse est rapidement, là, on dirait qu'elle peut être de deux côtés. Premièrement, oui, il y a une petite amélioration que les gens qui se déplacent, par exemple, en fauteuil roulant, ont vu une amélioration au cours des décennies suite à la pratique du sport en fauteuil roulant ou encore l'utilisation de prothèses lors de compétitions d'athlétisme, par exemple. D'un autre côté, le sport en fauteuil roulant, et il y a des équipements qui ont été développés qui est spécifique à la pratique du sport. Donc, par exemple, une raquette de tennis, tu peux avoir la meilleure raquette de tennis, celle que Roger Federer utilise pour gagner tous ses tournois, mais dans l'utilisation de tous les jours, tu peux l'utiliser seulement pour jouer au tennis.
Ben, peut-être pour corriger tes enfants?
C'est pas très bien vu de la part de la DPJ. J'aime mieux pas m'embarquer dans ce genre de discussion-là. Mais donc, tu vois un peu le genre de choses qu'on peut voir. Sauf que les Jeux paralympiques existent depuis, ou le sport adapté existe depuis 1948. Mm-hmm. Donc, évidemment, à ce moment-là, on parlait de sports comme le tir à l'arc, le tennis de table, qui ne demandent pas beaucoup de mouvement. Donc, les fauteuils roulants ou les chaises roulantes utilisées à ce moment-là étaient vraiment plus des chaises berçantes avec des roues, là, qu'on peut voir dans les bons vieux musées. Ouais. Mais dans les années 60, on a commencé à utiliser, à jouer au basketball en fauteuil roulant. Et puis là, ben, les athlètes ont dit, ben, j'aimerais ça performer. Fait que les appuis-bras ont pris le bord. Les freins ont été enlevés. Le dossier a été raccourci pour être plus bas, pour avoir une meilleure rotation du tronc. Et ça a apparu dans l'utilisation des fauteuils roulants de tous les jours. Des freins, par exemple, ont été développés en ciseaux, ce qui permet maintenant que dès que tu donnes un coup de roue sur ton fauteuil roulant, ben, tu ne te pognes pas le pouce après le frein. Donc, il y a moins de blessures. Ouais. Aussi, des alliages ont été mis en place pour avoir des fauteuils roulants qui sont plus légers. Donc, ça, c'est la technologie a amené ça.
Sais-tu si les gants ont connu un essor qui a permis aux gens de se doter de gants plus robustes au quotidien?
Quel genre de gants?
Ben, j'imagine, je sais pas, mais à force de pratiquer puis de courir en fauteuil, j'imagine que les athlètes utilisent des gants. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de la qualité du tissu ou de la résistance ou de la flexibilité à cause des courses? Puis ensuite, ben, on a importé cette technologie-là dans le gant de tous les jours pour ceux et celles qui utilisent un fauteuil roulant?
En fait, les personnes en fauteuil roulant, la plupart que je connaisse, sont des bons vieux Éthiopiens. Donc, ils n'utilisent pas de gants pour se déplacer dans leur fauteuil de tous les jours.
Okay.
Et ils n'utilisent pas non plus de gants pour faire du sport non plus.
Ah oui.
Okay. Donc, à part que si, par exemple, tu joues au tennis et tu es quadriplégique, puis ta préhension de la raquette n'est pas assez grande, donc on doit utiliser un gant et taper la raquette après la main pour avoir une meilleure préhension, être capable de frapper la balle.
Okay.
Mais dans d'autres circonstances, on n'utilise pas de gants. Seulement lorsqu'on fait de la course en fauteuil roulant, et là, ben, c'est des gants qui sont extrêmement spécialisés, qui sont faits sur mesure, et c'est ça qui fait la différence. Ça ne peut pas être utilisé pour pousser, par exemple, moi, je suis en fauteuil roulant, puis pousser mon fauteuil roulant tous les jours. Là.
Pour ceux qui n'ont pas compris l'analogie, là, c'est pas que Dominique n'a que des amis éthiopiens, mais bien que les Éthiopiens courent sans chaussures ou bas, donc le pas de gants était... Voilà.
Disons dans les années 60, c'est comme ça que les Éthiopiens étaient reconnus courir sans souliers. Maintenant, évidemment, ils utilisent des souliers, là, parce que la technologie est meilleure, mais ils étaient reconnus comme
ça. Tu vois, moi, les derniers Éthiopiens en course, il n'y avait pas de souliers, donc je m'imaginais encore qu'ils couraient sans souliers, mais tu corriges mon image.
Non, donc l'image était quand même pas si pire.
Ouais, ouais, ouais. Elle était vieillotte, là, mais... Sinon, est-ce qu'il y a... parce qu'il y a quoi? Bon, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a des ajouts, des améliorations?
Ce qui est important de savoir, et puis, bon, avec... bon, tu te rappelles de Oscar Pistorius?
Oui.
Avant qu'il devienne
son ex aussi,
un criminel,
ouais.
Avait fait une controverse et grâce parce qu'il avait réussi les standards et il court avec une prothèse en carbone. Mm-hmm. Et il y avait une dispute, dire est-ce que sa prothèse lui permettait de réussir de meilleurs temps à cause de la transfert,
ouais,
d'énergie.
Ouais.
Ça avait été dit que non. Et donc, c'est important que le règlement des Jeux paralympiques dit que l'équipement ne peut pas permettre à dépasser la d'un être sans handicap. Donc, ça, c'est important à respecter. Et dans le futur, ben, plus particulièrement pour les prothèses, c'est quelque chose qu'ils utilisent avec des prothèses faites avec des microchips, avec des ordinateurs à l'intérieur, ou que c'est l'esprit qui contrôle la prothèse. Donc, c'est pas des choses qui pourraient être utilisées, mmh, en sport, mmh, mais l'impression 3D pourrait permettre une évolution de l'équipement et qui pourrait par la suite être transmis dans l'utilisation de tous les jours.
Ouais, je sais que au chapitre du biathlon, entre autres, bon, on en parlait le mois dernier, là, la personne aveugle qui utilise une arme va avoir une sonorité qui va lui indiquer s'il vise bien la cible ou non. Et j'ai déjà testé des lunettes comme ça qui, selon la couleur qui est devant, selon la distance, va avoir des différentes sonorités et va être, bon, soit à gauche, soit à droite, soit en plein centre. Donc, j'imagine que c'est ce genre de truc-là qui fait que, pas nécessairement à cause du sport, mais que sport et besoin quotidien, à un moment donné, se stimulent l'un et l'autre pour avancer l'un par rapport à l'autre. Dominique, il faut que je te laisse. Il me reste 20
Merci.
Secondes.
C'est bon.
C'est moi qui te remercie. Au retour de la pause, il y aura entre autres une revue de presse avec Christiane. On va également aller du côté de Granby pour connaître un peu un organisme qui aide beaucoup lorsque vient le temps de vivre avec la sclérose en plaques.
D'écouter Accès libre.
On entendait ceux qui ne sont pas sur le balado, mais en direct avec nous, qu'on peut écouter Canal M avec notre Amazon Echo. Alexa a beaucoup de difficultés à comprendre Canal M. J'ai beau essayer là, de différentes façons. Canal M, la radio de... Canal M, la radio de Vusevoix. C'est pas un acquis encore. Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Yeah. Bon. La semaine passée, je vous ai fait l'affront de ne pas profiter de vos recherches parce qu'il y avait trop de pertinence, ce qui fait que vous n'avez pas pu partager ce que vous aviez. Donc, je vous donne 2 chances cette semaine.
C'est merveilleux.
Puis en même temps, ben, on ne fera pas semblant. Là, il y a un invité qui nous a fait faux bon. Fait que ça donne bien.
Ben là, on va commencer par la revue de presse internationale. Tout à l'heure, je vais vous faire du canadien. Et on a entendu parler récemment aux États-Unis d'un scandale dans les admissions universitaires des riches parents, mmh, qui payaient une compagnie, un organisme pour tricher, pour passer des examens. Il y avait différentes façons. Il y avait se faire passer pour des sportifs de haut niveau. Il y avait avoir des personnes qui corrigeaient les examens. Et il y avait aussi feindre d'avoir des limitations fonctionnelles, ouais, pour avoir des conditions spéciales aux examens. Et il y a quelqu'un qui a écrit une lettre d'opinion sur le site du magazine Vox pour dire que, ben, le danger, c'est qu'il n'y ait plus de suspicion à l'avenir. Deuxièmement, elle, dans sa vie, a fallu qu'elle passe psychologiquement par-dessus le fait, parce qu'au début, d'une certaine honte d'avoir besoin de ces mesures d'accommodement, mmh, d'ensuite... Cet éternel doute de dire, des gens qui doutent que vous avez le talent égal, que vous avez, ouais, les mêmes compétences. Alors, ils n'avaient pas besoin qu'on rajoute ça par-dessus.
Et on peut présumer que ceux qui ont tenté d'utiliser le subterfuge, se sont auto-diagnostiqués un handicap non visible. Et parce que, tu sais, c'est difficile de dire ce qui se... Bon, on comprend, mais c'est justement les personnes qui vivent avec des handicaps non visibles ont beaucoup de difficultés à cause des préjugés où beaucoup de gens pensent qu'ils feignent et tout, et on a de la difficulté à comprendre que ce soit les TSA ou même un paquet de choses, le trouble de santé mentale, TDAH, bon. Alors, on peut comprendre, puis c'est quand même bien que quelqu'un a pris le temps de... C'était dans Vox?
Oui, et surtout, ce sont des personnes qui déjà sont privilégiées. On parle majoritairement de Blancs, on parle de gens très riches. Mm-hmm. Donc, ils ne vivent pas avec des problèmes économiques que tu vas souvent avoir déjà si tu as une situation de handicap. Et que là, ils vont nuire à ceux qui ont ces problèmes-là parce que ça va marquer l'imaginaire que des gens aient triché.
Ouais.
Toujours aux États-Unis, il y a deux, trois semaines, le Dr. Phil a reçu son émission des couples.
Bon, il est encore à la télé, lui.
Et oui. Et il recevait des couples dont l'une des personnes était handicapée et il leur a
elle
dit
l'est encore,
que.
J'imagine.
Oui, et qu'il leur a dit que c'était à la femme que c'était impossible qu'elle soit l'aidante et l'amante de son mari, que ça ne pouvait pas fonctionner, que dans 100%, il n'y a pas été fort, rien qu'un peu, là, que dans 100% des fois, c'était voué à l'échec. Et ça a donné lieu à un mot-clic sur Twitter de plein de gens qui lui ont répondu avec leur histoire qui fonctionnait très bien. Et le mot-clic, c'était 100 out of 100. Et ça fait vraiment un tabac sur Twitter. Il y en a vraiment eu des centaines et des centaines de
réponses. À la décharge de Dr. Phil, on ne sait pas ça fait combien de temps que l'amante et l'aidante et la personne sont ensemble.
Oui, mais quand même, de là à dire 100% des cas, c'est quand même s'avancer beaucoup sans connaître aucun... Je pense pas qu'il y avait de statistiques, à part son opinion personnelle.
Mais c'est peut-être
pour
ça qu'il est encore à télé, parce qu'il dit des niaiseries des fois.
Souvent, ça aide, paraît-il.
Oui, c'est ça, semble-t-il, ouais.
Il y a aussi un autre mot-clic qui est « Ables are weird », qu'on pourrait traduire par « les non-handicapés sont bizarres », qui circule sur Twitter depuis un certain temps, où des personnes racontent des expériences vécues avec des personnes non-handicapées, comme des dames qui passent sous la toilette, sous la porte des toilettes pour personnes handicapées pour donner de l'aide.
Elles
ont décidé que la personne qui était dans la
toilette
avait besoin...
Sans qu'elle ait demandé, je présume. Voyons donc.
Sans qu'elle ait demandé. Et il y a des... Bon, comme c'est sur Twitter, il y a des réponses. Ben, les personnes ont dit, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ou des personnes que tu n'as jamais rencontrées de ta vie, qui te demandent à l'épicerie, pouvez-vous avoir des relations sexuelles?
Ah oui. Mais les gens veulent savoir, Christiane.
Oui, mais désormais, on leur suggère d'aller écouter des épisodes de « Ça se demande pas » à Ami Télé.
C'est vrai, « Ça ne se demande pas » est une bonne source de préjugés qu'on démolit.
Voilà. Il y a aussi, le gouvernement Trump qui voulait encore une fois s'attaquer au financement du programme des Olympiques spéciaux. Ça a fait beaucoup les manchettes et finalement, ils sont revenus sur leur décision. Trump a annoncé lui-même... parce que ça relève du ministère de l'Éducation, c'est un programme dans les écoles, donc c'était Betsy DeVos qui, une fois de plus, s'essayait, parce que c'est pas la première fois, à couper ce budget-là. Ça fait les manchettes et ça a vraiment fait une grosse levée de bouclier aux États-Unis. Et là, Trump, on s'en commence à être en mode campagne électorale, a annoncé que ce serait financé.
Surtout que l'enveloppe n'était pas si importante, là.
Oh non, c'est vraiment des détails.
C'est entre 17 et 50 millions, là. Je me souviens plus exactement, là, mais aux États-Unis, là, c'était pas...
Oui, voilà. Surtout qu'on parle de la même occasion, on finançait encore une fois ce qu'on appelle les charter schools, qui sont des écoles privées. Mm-hmm. Leur financement était augmenté, alors ça paraissait bien mal. Et il y a notre ami Niall DeMarco. Vous savez,
notre sourd super mignon qui fait des blagues.
Qui prend l'avion et à qui on réserve toujours un fauteuil roulant. Dernièrement, dernièrement il s'est plaint sur Twitter d'avoir passé un vol de 5 heures sans sous-titre au film qui était donné dans l'avion. Bon, American Airlines lui a fait une réponse un peu banale. On est désolé, il est juste sur tel type de vol, pas sur tel type de vol. Mm-hmm. Alors, il a décidé de leur répondre en vidéo. Une vidéo en ASL sans sous-titres. Il a dit « Débrouillez-vous ».
Ah, sans rien dire!
il a dit « Débrouillez-vous ».
Mais en même temps, et l'idée est belle, mais eux peuvent s'engager un interprète.
Oui.
Quand tu es dans l'avion puis que tu n'as pas l'interprète qui est assis à côté de toi, tu n'as pas de manière de t'en sortir. C'est longtemps quand tu s'en vas en Israël, 14 heures, puis tu n'as pas de sous-titres, puis tu n'as pas de... bon, c'est sûr
en fait,
que...
il s'en était sorti et ça a fait une publicité pour quelqu'un d'autre par le fait même qu'il a bien paru dans l'histoire. Parce que comme il avait accès à une connexion, il a pu écouter des choses
sur
Netflix qui avait les sous-titres.
Bravo. Avez-vous d'autres bonnes nouvelles comme ça?
Non, ce serait tout pour l'instant. Je vous reviens tout à l'heure avec des nouvelles canadiennes.
Bon, Jean-Sébastien, vous avez relevé le petit mandat que je vous... J'aime le B3, je voulais découvrir du B3. Vous avez trouvé du B3?
Oui, je pense que oui.
OK. Steve Miller Band?
Steve Miller Band avec une pièce qui n'est pas inconnue, mais qui a été reprise par quelqu'un qui a été depuis accusé d'agression sexuelle et de viol, mais ce n'est pas cette version-là qu'on va entendre. Steve Miller Band et la pièce Fly Like an Eagle.
Bon, Jean-Sébastien, effectivement, ce sera la lettre et le chiffre que tu voudras, mais on veut rester dans le Hamun et on oublie là, les pièces du 20e. On veut notre tune d'orgue par semaine. On veut ça.
Ok.
Lucille Dignard, vous êtes directrice sortante, me dit-on, de l'organisme Séphir, organisme qui veut soutenir les gens qui vivent avec la sclérose en plaques. Bonjour d'abord.
Oui, bonjour.
Vous prévoyez sortir quand, vous qui êtes sortante?
Bien, je sors un pied. En fait, je prends ma retraite après 15 ans d'année à la sclérose en plaques. Je finis le 12 avril.
Oh, c'est bientôt.
Mais après ça, ben, je continue bénévolement le dossier de la coopérative des maisons et des logements adaptés
okay.
pour les gens ayant de maladies chroniques comme la sclérose en plaques.
Vous avez trouvé un ou une successeur?
Oui, c'est déjà fait.
Oh.
Effectivement, là, actuellement, là, est en formation.
Bon, mais on lui souhaite bonne chance, puis on vous remercie d'être là. Peut-être, Lucille, avant de parler de l'organisme, juste nous rappeler la sclérose en plaques. Bon, moi, ce que j'en connais, ce sont des particulièrement des femmes âgées entre 20 et 40 ans, je crois, qui sont, disons, qui sont atteintes où le diagnostic se déclare. C'est encore vrai?
Oui, oui. C'est en majorité des femmes. On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est pour ça que nous, dans nos logos, nos couleurs, c'est le pourpre. On a un pourpre bleuté, puis on a un pourpre rosé. Okay. Parce qu'on peut se permettre ça. Parce qu'effectivement, là, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Moi, je vous dirais, trois personnes là, sur quatre ont un diagnostic. Ce sont des femmes. Là. Oui. Et ça augmente. Là. Ça augmente toujours cet écart-là.
Les premiers symptômes, Lucille, quels sont-ils?
Je vous dirais, c'est souvent, pour la, ce qu'on entend, c'est souvent un engourdissement.
Okay.
Quelqu'un, par exemple, va avoir une jambe qui engourdit, un pied qui engourdit, des fatigues excessives. C'est arrivé, par exemple, des fois que c'était beaucoup plus violent que ça. Par exemple, une personne peut faire une névrite optique, c'est-à-dire que c'est une infection qui va faire qu'elle peut perdre la vue pour quelque temps. Alors, c'est souvent un choc. Il y en a que ça se fait progressivement, qui vont regarder en arrière d'eux, puis ils vont dire « il y a des choses que je faisais avant que là, je ne fais plus. »
Ah oui, OK.
Ouais. Oui, alors, mais la
c'est
fatigue...
C'est génétique?
Là... Pardon?
C'est génétique?
Non, heureusement, non. Mais il peut y avoir une fragilité dans une famille, parce que je connais des familles, des fois, il y a deux personnes qui peuvent avoir le diagnostic. Parfois, dans la famille, il y a d'autres maladies, là, d'autres maladies qui peuvent ressembler à ça,
mm-hmm.
fait que, comme la maladie de Crohn. Fait que c'est une maladie étrange, mal connue, encore inconnue, je dirais.
Mais est-ce qu'on en connaît la cause? Si c'est pas
non.
génétique, si
malheureusement,
c'est pas contagieux,
non.
on ne sait pas d'où ça vient?
Non, non.
Ah ben.
Il y a des déclencheurs, par exemple, un stress intense. Mais on semble qu'il y aurait une fragilité
mm-hmm.
et que cette fragilité, pour une raison ou pour une autre, elle peut faire en sorte qu'elle est déclenchée. Comme là, je vous disais, par exemple, un choc intense. Ça peut arriver, par exemple, des femmes qui vont accoucher. Après ça, ils développent la sclérose en plaques.
Ah,
je connais
oui.
quelqu'un qui est allé faire de l'escalade à un moment donné, puis elle s'est aperçue qu'elle est allée trop haut, puis quand elle est venue pour descendre, elle a vraiment fait une peur panique.
Donc, ce n'est
puis...
pas là du stress important sur une période de temps. C'est un
non.
événement qui peut être déclencheur.
Ça peut être un événement,
ah,
c'est
oui.
ça. Oui, ça peut être un événement. On pense peut-être à la mononucléose aussi,
mm-hmm.
parce qu'il y a des
la
gens
fatigue.
Qui ont développé la sclérose en plaques, puis dans leur jeunesse ou leur enfance, ils avaient eu la mononucléose. On pense aussi à la cigarette. On pense à la manque de vitamine D, parce qu'on est dans un pays nordique. Et là où il y a le plus de cas répertoriés, c'est justement dans les pays nordiques. Et le Canada est un des pays au monde où il y a le plus de diagnostic de sclérose en plaques. Et ça viendrait, par exemple, entre autres, notre manque de soleil. On s'en étouffle beaucoup.
Ouais,
on a juste
ouais.
le bout du nez qui sort.
Ouais.
Puis...
ça, alors, on est prêt avec ça pour le restant de ses jours après?
Alors, c'est pas... Oui.
Avec, bon, quand même, rémission et progression. Mais je crois que les poussées sont de plus en plus longues et de plus en plus intenses au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est ça?
Je dirais pas nécessairement
non, okay.
ça, parce que moi, je vois des cas où ça diminue. Mais
ah,
je vous dirais,
okay.
pour résumer, là, il y a deux sortes. Juste pour que ce soit plus facile à comprendre, il y a deux sortes. Il y en a une qui est comme progressive, doucement. Elle peut progresser. Habituellement, ça progresse doucement. Et comme je vous dis, on regarde l'année d'avant, puis on... Oh, l'année dernière, je faisais ça, cette année, je ne peux plus le faire, mm-hmm. ou c'est plus difficile. Ça, il y a une forme progressive. Parfois, elle peut être très agressive. Donc, dans l'espace de quelques années, la personne va se retrouver en fauteuil roulant. Mais ça, il y en a seulement à peu près 10 % là, sur les gens qui ont un diagnostic de forme progressive et la forme qui, actuellement, on pense qu'il va peut-être y avoir un médicament, mais pour le moment, il n'y a rien pour cette forme-là. Et l'autre forme, c'est justement, comme vous disiez, poussée rémission. Mmh. Alors, il y a un moment donné, il y a un pic dans la maladie, une inflammation qui se produit. Et après ça, ben là, ils vont donner de la cortisone, ils vont donner des médicaments pour, bon, justement, que cette inflammation-là diminue. Et après, souvent, il reste un petit quelque chose. On ne revient pas comme c'était avant. Il peut y avoir une fragilité qui s'est installé, comme par exemple un engourdissement dans le bout des doigts, moins capable de porter des poids avec la main droite, ouais. Alors et souvent des fois des fatigues plus ou moins extrêmes. Mais grâce à la médicamentation, ce qui arrive, c'est que ces poussées-là, le but des médicaments, c'est de faire qu'elles sont les moins dommageables possibles et qu'elles soient le plus espacées possible.
Le pourcentage des personnes atteintes qui peuvent conserver un emploi?
Oh, je vous dirais, c'est une grande majorité.
OK, tant mieux.
Une grande majorité, c'est une grande majorité des gens qui sont encore actifs, sont sur le marché du travail. C'est comme je vous dis, souvent des fatigues. Alors, les gens ont de légers symptômes qui vont faire que la personne, peut arriver, puis elle a une fatigue, elle va prendre 2 jours de congé, puis mmh. après ça, elle est bien toute l'année. Ça peut être bien 2-3 ans sans que ça bouge, là.
Est-ce que j'ai lu que, un peu comme la fibromyalgie, là, il pouvait y avoir des périodes de douleur intense?
La douleur, c'est pas tout le monde aussi. C'est okay. pas un symptôme qui est pour tout le monde.
Hein?
Oui,
okay.
oui. Je vous dirais, le symptôme qu'on retrouve le plus souvent, c'est une fatigue extrême.
OK.
Et c'est ce qui va faire que, par exemple, des personnes vont devoir demander leur invalidité.
Hmm. Parce qu'on n'est pas capable
de
garder le rythme.
Fatigue, ouais. C'est une fatigue intérieure. Et puis, c'est vraiment là, quelque chose de lourd, de pesant, qui t'enlève toutes tes capacités. Alors, comme tu ne peux pas garantir à ton employeur quand tu as cette forme de symptômes-là, quand tu ne peux pas garantir à ton employeur que chaque jour, tu es performant,
ouais.
Et bien, à ce moment-là, souvent, les médecins vont conseiller à la personne, et en même temps, pour enlever le stress, de dire, regarde, tu serais peut-être mieux de demander l'invalidité.
Le plus grand besoin auquel Séphir tente de répondre, quel est-il?
Nous, je vous dirais que le plus grand besoin, là, c'est d'avoir avec nous des employés comme par exemple des travailleurs sociaux, des intervenants diplômés. Parce qu'on a un très petit budget. Donc, c'est difficile pour nous là, d'avoir du personnel qualifié. Alors, moi, j'étais pendant 13 ans la seule employée ici.
Oh! Et vous aidez autant les proches aidants que les personnes atteintes?
Oui, parce que une maladie chronique, là, ça affecte toute la famille.
Mm-hmm.
Et même les amis, je vous dirais, parce qu'on vient des fois qu'on ne sait plus. Quand, je vais te donner un exemple, le symptôme de la fatigue est tout le temps là, ou assez souvent, puis là, faut que tu dises à ton conjoint ou à ta conjointe, puis aux enfants, je peux pas aujourd'hui, mm-hmm. je suis fatiguée. Et ça ne paraît pas à l'extérieur. Donc, souvent, les gens, il va se développer une aigreur. On va dire, toi, fatigué. Oui, mais c'est réel. Là.
Ouais.
C'est réel.
Ouais.
Alors, les gens se taisent, en parlent plus. Et souvent, là, ils viennent qui sont isolés dans cette maladie-là.
Lucille, comment est née l'idée de cette boutique de livres et de matériaux usagés, que ce soit magazines, CD? C'est quand même assez novateur comme façon d'aller chercher des fonds.
Oui, je vous dirais que moi, je suis une fille de la Côte-Nord. Puis, sur la Côte-Nord, on est habitués, nous, à ce que les gouvernements nous promettent mer et monde.
Ouais.
Là, ils nous amènent plein d'affaires. Puis, l'autre gouvernement, après ça, nous les enlève. Alors, on a développé la débrouillardise. Et puis, comme on est un organisme communautaire autonome reconnu par le ministère de la Santé, on a un petite subvention à chaque année qui nous permet de tabler sur cette subvention-là. Alors donc, moi, je regardais ça puis je me disais, il faudrait qu'on ait des choses permanentes, des choses qui nous appartiennent, mais pas des levées de fonds qu'on organise à chaque
année,
2-3 fois par année,
ouais.
Et qui nous mangent énormément d'énergie.
Puis achaler toujours le même monde. Je veux dire, là, la boutique est là, j'ai envie d'un livre, je vais aller bouquiner.
Et voilà.
Puis en même temps, tant mieux, j'aide d'autres gens, mais j'y vais pour moi d'abord et avant tout.
Oui, ben en fait, c'est ça. Ça fait qu'on a développé le principe d'une économie sociale, d'une petite entreprise d'économie sociale, et ça nous permet en même temps de faire que nos gens, on leur permet de faire de l'insertion aussi, de l'intégration sociale. Et puis, alors, tous nos bénévoles à la boutique, ça a commencé, en fait, l'histoire a commencé par une levée de fonds, une vente de garage par quelqu'un qui était atteint de sclérose en plaques. Et avec les années, bien, cette vente de garage-là grossit. Et la maladie ayant pris la place, elle m'a offert de reprendre le flambeau. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est devenu, cette vente de garage-là, qui s'appelait Les Livres de l'Espoir, est devenue une boutique des Livres de l'Espoir. Et maintenant, en plus, non seulement on permet à des gens atteints de sclérose en plaques d'être bénévoles dans cette boutique-là, parce qu'elle est tenue entièrement par des bénévoles.
C'est une bonne idée.
C'est qu'en même temps, elle permet à des gens, nous, on ne vend pas les livres plus que 5 $ parce que ce sont tous des dons qu'on reçoit. Donc, elle nous permet d'offrir des livres à moindre coût à des gens qui ne sont pas argentés. Et en même temps, on donne à d'autres, on donne aux suivants. Mmh. Alors, on a ouvert des bibliothèques dans des centres d'hébergement où on a des gens qui sont atteints de sclérose en plaques et qui demeurent là. Et quand on va les visiter, on en profite pour renouveler leur bibliothèque. On donne aussi à l'Assemblée, à la Fondation de l'Assemblée nationale qui s'appelle Culture à partager. Alors, eux, quand ils reçoivent des demandes de livres, par exemple, quand c'est pour des villes ou des petites communautés qui n'ont pas de bibliothèque, alors eux, ils envoient des livres selon les besoins et aussi dans d'autres pays où c'est la langue française là, qui alors, ils cherchent des livres. Donc, nous, on nous envoie des commandes de livres.
Je veux terminer là-dessus, Lucille. Bon, comme moi, j'ai au moins une, sinon deux boîtes de CD, des disques que j'écoute plus souvent. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont des boîtes de livres, mais bon, la plupart sont peut-être un petit peu éloignés de Granby. Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que parfois vous envoyez des gens à Montréal pour ramasser des choses à Montréal ou autour de Granby dans la région? Comment on peut vous fournir du matériel?
Je vous avoue qu'on ne se déplace pas parce que ça demande un équipement.
Je comprends.
Et puis nous, nos gens ont des fragilités, donc on ne peut pas se permettre de se déplacer. Alors, c'est ça, oui.
Et la boutique est sur quelle rue en terminant?
On est sur la rue Saint-Joseph à Granby. On ramasse des revues, des magazines, comme vous. En plus, on ramasse des CD, des DVD et bien sûr des livres.
Bonne retraite à vous.
Merci beaucoup.
Et j'invite les gens à aller sur le site du CEFIR parce qu'en même temps, bon, il y a des événements de levée de fonds plus ponctuels. Il y a différentes façons là, de pouvoir aider financièrement et peut-être même si vous êtes dans le coin, que c'est un organisme qui pourra vous offrir des services dont vous avez besoin. Merci beaucoup, Lucille Dignard.
Merci beaucoup. Au revoir.
Madame Campagna, revue de presse nationale cette fois. On commence par Weyburn ou par l'Ontario?
On va commencer par Weyburn. Au fond, je vais revenir sur des articles qui ont paru à différents moments au mois de mars parce que c'est une petite mini-saga qu'il y a eu dans cette municipalité en Saskatchewan après que la Société de logement a demandé la construction d'un foyer collectif pour des personnes handicapées mentales et physiques. Le projet était destiné à... Et là, c'était pour 4 personnes.
Ah, c'est. Oui, oui.
C'est ça qui est incroyable.
C'est honteux.
Quand on pense à tout ce qu'il y a eu par la suite.
Le tollé, oui.
Le conseil municipal avait refusé la demande sous des prétextes. Le pire, là, c'est le conseiller municipal Brad Wheeler qui a dit « ça brise les rêves des personnes qui y vivent actuellement parce qu'ils avaient peur pour la sécurité, pour la valeur
de la dévalorisation des immeubles autour. »
Des immeubles autour. Vraiment, et là, la municipalité s'est retrouvée sur la carte en Saskatchewan parce qu'à des plus hauts niveaux, du côté du gouvernement, les gens ont réagi à ce refus-là en disant « Voyons donc, on n'est plus là en Saskatchewan, on est dans une société plus inclusive que ça. » Donc, le ministre Paul Merriman a réagi, plein de gens ont réagi et finalement, devant, je pense, une très grande pression de ce côté-là, la municipalité a fini par changer d'idée. Donc, le 26 mars, on apprenait que le conseil municipal de Weyburn a annulé sa décision initiale et approuvé le projet de construction avec des conditions.
Oui, c'est ça. J'ai lu, moi, qu'ils allaient revoir leur décision. Donc, je présume que oui, on annule. Oui, ça va être un oui, mais...
Mais avec des conditions comme il faut que ça reste propre. Il faut qu'il y ait suffisamment de stationnement. Donc, pas plus que 4 personnes. Vraiment.
C'est dur de ne pas juger les gens dans ce temps-là.
Oui, c'est vraiment pas facile.
Et des bonnes nouvelles pour les gens de l'Ontario. On parlait à une grand-maman qui organisait une manifestation à Hawkesbury samedi. Le gouvernement Ford, lui aussi, fait volte-face pour aider ceux et celles qui ont un TSA.
Bien, pas une volte-face complète. Okay. Là. On continue d'envoyer les gens vers le privé plutôt que d'offrir des services publics, mais on a enlevé le plafond en fonction des revenus. Ça inquiète quand même certaines personnes qui ont peur de ne pas avoir accès à certains types de thérapie. Et ça peut aussi amener à un autre problème qui était soulevé dans un autre article que peut-être le public aurait davantage aidé. C'est quand vous êtes en milieu francophone dans des régions, vous êtes francophone dans des régions où il y a peu de services en français. Mm-hmm. C'est plus difficile pour les parents de trouver des services à ce moment-là. Il y a une dame qui est prise dans le nord de l'Ontario parce qu'elle est en garde partagée. Elle peut pas déménager dans la région d'Outaouais, mais elle trouve pas de services en français pour son fils, dont elle a remarqué qu'il évoluait plus rapidement et qu'il réagissait plus vite quand il avait des thérapies en français qu'en anglais.
OK, mais ça, c'est important.
Oui.
Il me semble avoir lu qu'on allait tripler l'enveloppe.
Oui, ça va faire monter beaucoup l'enveloppe d'enlever, en fait, tout simplement en enlevant ces plafonds-là.
Ouais. Je sais pas à quel point ça va aider, là, mais on va probablement revenir là-dessus. D'ailleurs, le lundi de Pâques, on va vous faire un genre de chronique à rebours de choses qu'on a déjà abordées avec des suivis de dossiers de Christiane. Madame Campagna, merci beaucoup. Monsieur Laliberté, on se retrouve lundi prochain. Et vous à la maison, ben, on lâche pas.